Philippe Solers, le romancier, essayiste et éditeur, publie un nouveau roman intitulé justement Le Nouveau chez Gallimard, après une conversation infinie avec Josiane Savigno qui était parue chez Bayard en janvier dernier. Dans ce nouveau roman, on y retrouve tout ce qui le constitue, la littérature, la traduction, l'amour, quelques fantômes, la transgression et même le Dieu nouveau. Philippe Solers est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Dans ce roman, vous prenez le large à bord du Nouveau, baptisé ainsi par votre arrière-grand-père, Henri, clin d'œil au Nouveau Monde, cap sur le souvenir, entre généalogie familiale et retour sur l'histoire. Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Quoi de neuf? C'est vrai que c'est une question qu'on pose aux débeautés, dans la rue, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a envie de vous poser aujourd'hui. Alors quoi de neuf, Philippe Solers?
Eh bien, ce qui est neuf, c'est le temps. Pris dans sa grande, grande largeur. C'est pour cela qu'il faut s'embarquer sur un bateau et quitter le côté trop terrien, trop terrestre, trop territoire, qui en ce moment est en train de stagner beaucoup. Vous prenez le large, vous prenez votre bibliothèque et vous l'embarquez dans votre bateau, et là, tout à coup, si vous êtes du sud-ouest, Bordeaux, l'ouverture de l'histoire devient considérable. Donc, au lieu d'avoir une restriction hexagonale, quelque chose qui piétine sur les ronds-points, vous prenez le large et vous évaluez, vous réévaluez toute l'histoire. À ce moment-là, vous avez un marin, vous avez un escribeur, champion du monde, vous avez une Irlandaise qui est là en exil à Bordeaux, et vous avez une Française qui est passionnée de lecture et dans la dans sa bibliothèque, il y a un auteur qui est un dieu, que le jeune garçon que j'étais se demandait pourquoi sa mère lisait tout le temps ça, c'est-à-dire Proust. Et donc, il lit ça, mais il n'y comprend rien, et il ressent que c'est très fort, très important pour comprendre la France dans tous ses détails, dans tous ses monuments, et dans toute sa littérature. Et donc, il va ressentir ça, il va comprendre. Petit à petit.
Et le roman.
Le nouveau, c'est Proust,
voilà.
Par exemple.
Et dans ce roman,
et Shakespeare,
le nouveau.
Et Shakespeare est très nouveau si on s'en occupe vraiment.
Vous partez véritablement, Philippe Solers, à la recherche d'un temps perdu, du temps, le vôtre, le nôtre aussi.
Non, le temps est retrouvé, justement, c'est ça. La fin de Proust, vous savez, c'est le temps retrouvé. Et le narrateur a retrouvé le temps, justement. Il l'a pas perdu.
Vous avez le pied marin, vous?
Comment?
Vous avez le pied marin, vous?
Oui, j'ai fait beaucoup de bateaux dans mon adolescence, beaucoup. Là, les qualités pour faire du bateau, vous savez lesquelles? Il faut être très attentif au vent. Hein, sinon, vous ne comprenez pas la navigation, surtout à voile, bien sûr. Pour être escribeur, il faut être très sensible au coup d'œil. C'est-à-dire que vous devez manier le fleuret d'une façon... Ça, c'est mon grand-père qui était escribeur. Voilà les qualités que j'ai avec un stylo ou... Le sens du vent.
Sensible au vent contraire et aussi au vent nouveau, on imagine. Le nouveau, la nouveauté, vous l'appréciez, généralement?
Oui, le nouveau, c'est pas la nouveauté. Parce qu'il y a plein de nouveautés et il y a peu de nouveaux. Vous avez des nouveautés tout le temps, en ce moment même. Vous avez 500 livres qui paraissent et hélas, ils ne sont pas nouveaux du tout. La nouveauté, c'est ça la surprise, vient de très loin.
Mais vous la présentez aussi parfois, cette nouveauté, comme faisant partie des risques ou des dérives de la modernité. Ce nouveau, cette nouveauté qui se fait parfois au détriment de ce qui lui précède, de la mémoire, du passé. C'est toujours comme ça que ça se joue aussi, le présent contre le passé, le nouveau contre l'ancien.
Non, pas du tout. Oubliez les temps modernes, vous avez quitté les temps modernes et vous êtes dans l'ère planétaire. Donc, dans l'ère planétaire, en effet, ce qui est frappant, c'est la façon dont on change de code d'accès, hein, à la conversation, par exemple, qui n'existe plus. Bon, vous êtes dans le numérique, vous êtes tout le temps scotché à votre iPhone, et là, évidemment, quelle place pour la littérature? Aucune. Et la mémoire elle-même est atteinte. Vous êtes dans la communication incessante, c'est-à-dire dans l'appauvrissement constant de la mémoire et du vocabulaire. Ben voilà en quoi la nouveauté consiste à prendre du recul et à se ressourcer de très loin. Homère, par exemple, est très nouveau ce matin. La Bible est très nouvelle ce matin même. Vous voyez, tout ça, et Shakespeare, n'en parlons pas, il est là.
Il y en a un qui pense que la littérature, voire la lecture, ne disparaîtront jamais. C'était l'écrivain David Grossman que l'on recevait il y a 2 ans autour de cette grande table. Écoutez.
Vous pouvez imaginer un monde sans littérature, sans art ? Moi, je pense que la littérature est un bon moyen d'être en contact avec beaucoup d'autres visages du monde.
Et
ce qui fait bouger la littérature, ce qui la fait agir, c'est comprendre les gens autres de l'intérieur d'eux-mêmes. Pas à partir de mon intérieur à moi, de mon intériorité, par un autre regard, à travers un autre regard. Et donc, de ce point de vue-là, lorsque les gens me disent « Ah, il n'y a pas d'avenir à la littérature, avec toutes ces avancées technologiques, le numérique, la littérature ne survivra pas. » Non, moi, je suis sûr qu'elle va vivre. Elle vivra par d'autres voies. Mais elle vivra parce que il y a un besoin primal de l'être humain de raconter des histoires et d'écouter des histoires. C'est ce qui fait de nous des humains, des êtres humains.
Philippe Solers, vous êtes d'accord avec l'écrivain israélien David Grossman que la littérature ne peut pas mourir. Elle est d'avance sauvée par ce besoin primal que nous avons d'écouter, d'entendre, d'écrire aussi des histoires.
Oui, tout ça est bien gentil, très humaniste d'ailleurs, et pourquoi pas. Sauf que là où ça ne me convainc pas vraiment, c'est qu'il faut avoir le sentiment que la littérature pourrait disparaître pour faire ce qu'on appelle de la bonne ou de la vraie littérature. Il faut avoir ce sentiment-là, donc, de négativité profonde. Et à partir de là, trouver son chemin comme en bateau vers le cap qu'on suit. Donc, la littérature pourrait disparaître. Elle est en train de disparaître. Elle a toujours été menacée. Mais la bibliothèque est évidemment éternelle. Vous emportez votre bibliothèque en bateau. Et voilà. Et vous aurez plein de nouveaux qui va vous venir de très loin. Et non pas du tout de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. Vous aurez accès au temps.
C'est cette crainte, cette peur de voir la littérature disparaître qui
mais
vous
moi,
fait...
j'ai absolument pas peur. Non, pas du tout.
Non, mais vous dites qu'il faut avoir un peu cette peur pour pouvoir quand même aussi faire raisonner.
Il faut éviter d'avoir peur, bien entendu. Il faut avoir conscience. Pour comprendre le bien, il faut avoir conscience du mal. Parce que si vous n'avez pas conscience du mal, vous ne savez pas ce que c'est que le bien. Et vous défendez un faux bien. Et la question est celle qui est posée tous les jours. Regardez l'actualité. C'est celle de l'identité. Quelle est votre identité profonde? Est-ce que vous la maîtrisez? Est-ce que vous avez accès à elle? Est-ce que vous avez accès à votre langage intime ou pas? Voilà, c'est ça la vraie littérature, c'est si vous êtes capable de vous exprimer dans votre singularité.
Alors, votre identité à vous, Philippe Solers, Edna a été une catholique distante, Henri, un voyageur magicien, Louis, un libre penseur sportif, Léna, une catholique humoristique, Pierre, son mari, un athée discret. On remonte jusqu'à votre arrière-grand-père, donc Henri, le navigateur que vous citez là, à sa femme irlandaise, Edna, et à votre mère, Léna. C'est un drôle d'alliage que cette famille dont vous tenez et d'où vous venez, vous avez l'impression d'avoir en vous un peu de chacun d'eux.
Oui, bien sûr, il y a une transmission, je crois, génétique, généalogique, enfin génétique dans la généalogie. Je me sens marin, je me sens, quand je sors mon stylo, escrimeur, parce que j'utilise mon stylo à la main, hein. J'écris tout à la main, pas d'ordinateur, quelle horreur. Non, à la main, donc c'est comme si j'étais un fleuret, je me sens exilé, comme si je venais d'une autre patrie que la mienne. Vous savez, il y a un mot de Joyce, l'Irlandais le plus extraordinaire qui ait jamais existé, c'est pour ça que je pense à lui quand je pense à mon arrière-grand-mère irlandaise, c'était sa devise, le silence, l'exil, la ruse. Magnifique. Il a traversé le temps comme ça. Et puis, ma mère qui était lectrice de Proust.
D'ailleurs, le silence, vous lui accordez souvent une grande place aussi. Vous le citez régulièrement. Pourquoi le silence? C'est ce moment où les mots peuvent résonner. Comment vous l'interprétez, ce silence?
Comme quelque chose que le bruit ne peut pas atteindre. Voilà. Et or, vous savez qu'on vit dans le bruit constamment, le vacarme. Si vous avez des voitures de police ou les SAMU qui vont habiter près d'un hôpital, c'est le vacarme continuel. Hein. Ça, vous ouvrez une radio, c'est le vacarme. C'est pas de la musique, c'est de la musaque, etc., etc., etc. Beaucoup de bruit et beaucoup de bavardage pour pas dire grand-chose et beaucoup de déclarations idéologico-politiques pour rien dire au fond.
Le Nouveau, c'était un navire, mais c'est aussi un théâtre d'ombre presque. Vous écrivez, je décide de fonder un théâtre spécial, je l'appellerai Le Nouveau. C'est un théâtre sans salle, sans acteur, sans déclamation, sans public. Tout s'y déroule en silence, à l'écoute de la percussion des mots. Au lieu de lire un roman qui se traîne, même les meilleurs, je monte sur la scène du temps. Voilà ce que vous faites aussi avec ce roman, Philippe Solers, Le Nouveau. Ce texte, en fait, est un plaidoyer vivant en faveur de l'intertextualité que vous avez définie en son temps. C'est une remémoration permanente à l'égard de ces auteurs qui vous sont chers, que vous avez parfois croisés, très souvent lus pour beaucoup, et que vous faites presque aussi se rencontrer, comme Oratorio qui peut croiser Céline sous votre plume. Vous citez Jacques Rivière, vous citez évidemment Proust, qui était dans la bibliothèque de votre mère, vous l'évoquiez, Gide, Pascal, Joyce, Freud, Céline et tant d'autres. C'est pas un tombeau littéraire.
Non, au contraire, c'est les vivants qui me semblent de plus en plus morts et les morts de plus en plus vivants. Voilà le paradoxe. Le Nouveau, c'est la vie des morts, c'est-à-dire des singularités qui sont là et dont presque plus personne ne s'occupe. Donc, moi, je suis attentif, j'écoute le silence et la voix des morts. Tout ça m'est transmis directement. Quand j'ouvre un livre, vous savez, voilà, l'auteur est là, comme s'il respirait à côté de moi.
D'ailleurs, il y a deux fantômes qui hantent et éclairent cette traversée familiale. Shakespeare et Freud, convoqués à la manière de Montaigne dans ses essais, dont vous êtes un grand admirateur bordelais, comme vous, s'il en est. Quelle empreinte Shakespeare a-t-il laissé sur votre vie? Vous racontez cette anecdote qui était quand même, je ne sais pas si elle est vraie, mais que votre arrière-grand-père Henri avait toujours dans son bateau un exemplaire de La Tempête de Shakespeare.
Les navigateurs avaient des œuvres de Shakespeare, oui. Ils parlaient anglais, etc. Ils savaient que c'était l'auteur qui pouvait le mieux résister aux tempêtes, aux mauvais temps, etc. La Tempête, c'est la pièce finale de Shakespeare, magnifique. Mais Shakespeare, c'est très nouveau, vous l'ouvrez, et je me moque surtout des traductions françaises qui sont le plus souvent complètement à côté de la plaque. Par exemple, André Gide ou Yves Bonnefoy, vous comprenez, qui ont peur de la crudité de Shakespeare. Shakespeare est un auteur extrêmement cru. Il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle Shakespeare pornographe. Il est évident que les jeux de mots dans Shakespeare sont très souvent et constamment avec des allusions sexuelles. C'est très habilement fait, très subtil, et la plupart des gens, même cultivés, comme Gide ou Bonnefoy, n'y voient que du feu.
Parce que la traduction est aussi fidèle à son époque, à ses tabous, à ses retenues, d'ailleurs.
Shakespeare, ça permet de comprendre où sont les refoulements humains. C'est pour ça que ça intéressait tellement Freud, qui se demandait qui pouvait être ce Shakespeare. Freud a passé son temps à se demander ça, jusqu'à 2h du matin dans des conversations fiévreuses. Qui pouvait être Shakespeare? Comment se fait-il qu'il y ait eu un auteur comme ça? Est-ce que nous sommes capables d'imaginer qui? Donc c'était incroyable. C'était un comédien, donc il n'était pas diplômé, il ne venait pas d'Oxford. Il a tout inventé, il a raflé la mise et la scène, en effet, mondiale. Shakespeare, ça tient le coup, croyez-moi.
Vous vous montrez en effet assez piquant envers les traducteurs et les traductions de Shakespeare. Vous écrivez, celles de Gide sont parfois cocasses, mais la plupart des autres sentent leur origine professorale, rejet des répétitions et voile pudique sur les innombrables jeux de mots érotiques.
Oui.
C'est très cru Shakespeare, écrivez-vous, et les traducteurs français ne sont pas à l'aise avec lui. Je vous propose d'écouter les mots d'un grand metteur en scène, d'un grand amoureux de Shakespeare aussi, le metteur en scène britannique Peter Brook. À ce sujet, il évoque la simplicité du langage pour lui de Shakespeare.
En France, hélas, comme il y a une telle différence entre les deux langues, la tradition de notre théâtre, qui a pris des directions et trouvé des formes tellement différentes pour des raisons naturelles, époque après époque, on ne se rend pas compte que Shakespeare n'est pas, on l'appelle un poète, très joli, on l'appelle un grand auteur, mais il ne fait jamais dans aucune de ses pièces ce qu'on appelle de la littérature. Il n'y a pas de mot d'auteur. Tous les plus grands mots de Shakespeare sont dans un langage que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas une seule tirade connue de Shakespeare où les phrases sont, comme dans la littérature, des mots d'auteur. C'est la manière la plus concentrée et plus juste pour dire le contenu. Et ça commence bien sûr avec les deux mots qui ont traversé le monde entier, qui est « to be » ou « not to be ». Il n'y a pas un enfant de 10 ans qui aurait la moindre difficulté à comprendre « to be or not to be », c'est tout.
Alors, on peut comprendre le sens littéral des mots comme « to be or not to be »,
oui.
Mais peut-être pas oui, si facilement, oui. Aussi aisément,
non, pas du tout.
Le fond de la pensée d'auteur.
Je crois que Peter Brook ne dit pas grand-chose là, tant pis. Surtout quand il dit que Shakespeare n'est pas un poète, là, ça me fait rire. Parce que...
Non, il disait qu'il ne fait pas de la littérature.
Mais si, mais voyons, enfin, c'est incroyable de dire ça, c'est n'importe quoi. Prenez les sonnets de Shakespeare. Il n'y a pas de musicien plus fort que Shakespeare dans ses sonnets amoureux. Enfin, ce sont des chefs-d'œuvre admirables. Hein. If music be the food of love, si la musique est la nourriture de l'amour, parce que ça c'est le début de la Nuit des Rois, la musique est la nourriture de l'amour. If c'est un musicien, voilà. Si la musique est la nourriture de l'amour, play on, jouez en musique.
Bon, mais vous savez que Philippe Solers, l'anglais est aussi devenu la langue de la mondialisation. Ce qui est étonnant, c'est que dans ce roman, Le Nouveau, au passage, vous réitérez une fois encore votre attachement viscéral à la langue française, envers et contre tout.
C'est mon corps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Vous écrivez, vous êtes né dans le local, suivi du régional, du global, de l'international, et vous voici maintenant dans le mondial global. Comme presque personne ne sait plus parler ou ne parle que pour communiquer sans rien dire, le Dieu nouveau vous pousse aux extrémités du français. Vous attendez beaucoup de cette langue quasi morte, que vous êtes un des derniers à manier avec efficacité. Le plus étrange est que le français vous attendait, c'est ce qu'il vous répète chaque jour en silence.
Vous savez, tous les matins, j'ai sur ma table, pas loin, 13 volumes de la correspondance de Voltaire. Vous ne pouvez pas savoir, ce sont des lettres courtes, vous les ouvrez, vous prenez des vitamines pour la journée. C'est électrique. Un peu plus loin, j'ai 8 volumes du duc de Saint-Simon, qui est écrit comme personne le français, que Proust admirait au point de vouloir s'égaler à lui, etc. Et à partir de là, j'éteins tout, je n'ai plus aucune communication, j'entends la vie de cette langue admirable qui, en effet, dépérit. Hélas.
Invité de la Grande Table jusqu'à 12h30, l'éditeur et écrivain Philippe Solers est avec nous à l'occasion de la parution de son nouveau roman, Le Nouveau, tout simplement, chez Gallimard.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
On a appris ce week-end la mort de Jean-Pierre Richard, autre maître de la critique avec Jean Starobinski, décédé lui aussi récemment, il y a un peu moins de 2 semaines. Il avait 96 ans, Jean-Pierre Richard, fasciné par les auteurs de la modernité. Il était un spécialiste de Mallarmé, de Proust, de Joyce, que vous citez à d'innombrables reprises, là encore, Philippe Solers dans ce roman, ou encore de Nerval. Il était l'auteur de Littérature et Sensations en 54, à propos de Stendhal et de Gustave Flaubert, mais aussi de Poésie et Profondeur en 55, où il faisait une place aux grands poètes du 19e ou encore de Les Jardins de la Terre chez Verdier, ancrés dans des proses plus contemporaines dont celle de Maïlys de Kerangal ou encore de Fred Vargas. Il a eu des mots pour le magazine, dans le magazine littéraire en 96 qui devrait faire écho en vous. Philippe Solers, Jean-Pierre Richard expliquait son rapport à l'écriture. Il disait « Je ne peux écrire, c'est ma loi, qu'à partir de l'écriture d'un autre, j'ai besoin de ce détour de l'altérité, même et surtout peut-être pour évoquer le plus personnel. » C'est ce que vous faites aussi d'ailleurs dans ce roman, en passant par la vie des autres, celle de votre famille, tout en remontant jusqu'à cet arrière-grand-père, pour vous raconter et nous raconter aussi. On va y venir, c'est une petite histoire dans la grande. Jean-Pierre Richard, vous l'avez connu ?
Non, assez vaguement, mais c'est un très bon essayiste, avec Starobinsky par exemple, ce sont des gens qu'on n'en fera plus, qui étaient très cultivés, voilà. Moi, j'écris pas sûr, hein, ce sont des professeurs, hein, admirables, mais quand même des professeurs. J'écris avec, c'est-à-dire que c'est un match constant entre les auteurs que je lis là, dans la bibliothèque, la plus essentielle, et ce que je peux en faire avec ma vie, hein, avec ma biographie. Alors que les professeurs sont pas là pour raconter leur vie. Or, c'est la vie même que j'essaye d'atteindre avec les auteurs. Alors la poésie, bien entendu. Là, vous avez cité Mallarmé. Voilà, gloire du long désir, idée, voilà, bon, ou Derval, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, tout ça vit en moi et se manifeste dans une mémoire très très serrée.
Sur les liaisons entre musique et littérature, je vous propose d'écouter la voix de Jean-Pierre Richard.
Est-ce que la façon d'appréhender l'écriture ne revient pas toujours à poser cette question ? Quel est le rapport imaginaire de cet écrivain et à la voix et à la musique ?
Ceci, en effet, pourrait se vérifier, mais à mon avis, de manière légèrement différente. Dire que ce qui importe dans une écriture, c'est une certaine position de départ, le choix d'une certaine tonalité, d'une certaine vitesse, un certain rapport de rythme, avec ses éléments, le désir de consonner avec tel registre plutôt qu'avec tel autre. C'est ainsi que moi j'entendrai la musicalité du discours, le choix d'un certain type de résonance. Mais au-delà de cela, je ne conçois pas qu'une musique puisse être en tant que musique organisatrice d'un discours.
Voilà, comme critique, Jean-Pierre Richard, Jean Starobinsky, Genette ou Dubrovski font désormais époque en nous. Ils sont nos bibliographèmes. Voilà ce qu'écrit Johann Ferber dans Diacritique, clin d'œil au biographème de Barthes. C'est vrai qu'il parlait aussi, à travers la critique qu'il faisait des livres et de la prose ou de la poésie des autres, de l'époque dans laquelle les écrivains habitent et dans laquelle nous tentons d'évoluer. Pour revenir à la petite histoire dans la grande, celle que vous mettez en scène dans ce roman, le nouveau Philippe Solers. Vous dites que de cette lignée, vous avez hérité aussi d'un art de vivre, Bordeaux, le vin, Montaigne, Montesquieu, les livres, la navigation, et d'une absence de culpabilité. À quoi cela tient ?
C'est très étrange. Je peux illustrer ça par un mot très très étonnant d'Alfred Hitchcock, le grand cinéaste, le meilleur, le plus grand des cinéastes, à mon avis. Et dans ses entretiens avec François Truffaut, c'était à propos d'Heil Kampfes, enfin bon. Et Truffaut lui dit, mais est-ce que votre éducation, c'était l'éducation jésuite, hein, donc est-ce que votre éducation ne marque pas votre œuvre avec une sorte de péché, enfin, de noirceur, de crime, enfin. Et alors Hitchcock lui répond, mais vous ne comprenez pas du tout ce que je fais. J'arrête pas de décrire un innocent dans un monde coupable. Vous voyez? Non, c'est le monde qui est coupable. Par exemple, North by Northwest, vous avez ce monsieur Kaplan qui ne sait pas pourquoi, tout le monde veut le tuer, il ne sait pas pourquoi. Hein, c'est une sorte de Christ ambulant, si vous voulez. Il est innocent dans un monde coupable. Donc, mon absence de sentiment de culpabilité, c'est que j'ai une très vive appréciation de la culpabilité du monde, ou de la société, si vous voulez, qui est pourrie de mensonges, bien entendu.
En 1944, j'ai 8 ans et nos maisons comme le Grand Jardin de Bordeaux sont encore occupées par les Allemands. 2 ans auparavant, ils rasent nos maisons du bord de l'océan qui gênait, paraît-il, leur artillerie lourde. Ces crétins croyaient murer l'Atlantique. Ils n'ont pas réussi à s'emparer de la petite barque blanche du Nouveau. Les mouettes en rient encore au-dessus des plages. Je serai enterrée dans un cimetière du coin, non loin des aviateurs australiens ou néo-zélandais qui sont venus se battre et s'écraser sur l'île. Ma dalle funéraire verticale est prête et comporte une rose sculptée. Ces jeunes pilote et mitrailleur avait-il un volume de Shakespeare à bord, comme beaucoup d'Allemands avaient près d'eux les poèmes d'Hölderlin. On en a retrouvé pas mal dans leur avion fracassé. C'est possible, la poésie parle à la poésie, le reste est silence.
Ça tourne. Alors voilà, on est le 21 novembre 1984. Il est 11h.
Ah oui, c'est toi qui voulais le 21.
C'est le jour de la présentation de Marie au temple.
Mais présentation au temple avant?
On la présente au temple, la petite Marie.
Après l'Annonciation?
Ah oui. Mais avant, non, avant.
Avant.
Petite,
oui, parce qu'il y avait un certain nombre de jeunes filles qui attendaient.
Voilà, c'est ça.
Qui pouvaient être choisies.
Exactement.
Qui pouvaient être choisies et qu'on commençait à...
Voilà.
C'est un peu la... Le bal, c'était son bal des débutantes.
Hein. Voilà, exactement.
75 minutes, Godard, Solers, l'entretien. C'était en 1984, à l'occasion de la sortie de son film « Je vous salue, Marie ». Alors ce film documentaire-là ressort en DVD et sera projeté à partir du 10 avril au Saint-André-des-Arts à Paris. Est-ce que tout l'entretien, tout cet échange entre vous deux était sur ce ton-là?
C'était un entretien tout à fait baroque, et Godard est excellent, bien entendu, mais il me demande pourquoi j'ai tendance à rire constamment, absence de culpabilité, et alors que lui, il a tendance à pleurer. Voilà. Donc c'est toute la différence entre un protestant de Genève et un catholique du Sud-Ouest. C'est pas du tout la même chose religieusement. Alors, vous savez, discuter de la Vierge Marie avec un protestant, c'est absolument impossible. Eh bien, on y arrive quand même. C'est ça qui est drôle.
Et il y avait une admiration réciproque entre vous?
Oh ben, écoutez, il a... Enfin, c'est vraiment... Enfin, il a du génie, bon. Voilà, donc entre génies, on se comprend.
Voilà, je l'attendais de votre part, Philippe Solers. Merci beaucoup. Forever Mozart, sorti en 96, on se souviendra quand même que le film vous rendait aussi, sous la forme du clin d'œil, à cette amitié, il faisait référence avec ce « Tu as lu l'article du petit Solers dans Le Monde hein, », dit la femme. C'était un article sur Marivaux. On n'aura pas eu le temps de parler de marivaudage, de fidélité, de votre relation aux femmes.
La prochaine fois.
La prochaine fois. Merci mille fois à vous, Philippe
Solers. Merci à vous.
Le nouveau roman paru chez Gallimard et une conversation infinie avec Josiane Savigno. Ce sont vos conversations ensemble sur plein de sujets qui jalonnent votre vie et vos écrits. Merci.